Il est tout juste midi et demi, place au journal de la mi-journée sur Europe 1 avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Moi j'avais un match demain parce que je suis arbitre de foot et ça a été annulé. Franchement, c'est vraiment une frustration.
Nouvelle mesure d'interdiction dans le Haut-Rhin avec toutes les écoles, les crèches fermées comme dans l'Oise à partir de lundi pendant 2 semaines. Objectif, ralentir la propagation du coronavirus particulièrement présent dans ces 2 départements. Autre mesure annoncée hier soir pour faire face à une éventuelle pénurie de gel hydroalcoolique. Les pharmacies peuvent désormais en fabriquer. C'est déjà le cas à Paris.
De l'alcool à 95, de l'oxygéné à 10 volumes, de la glycérine et de l'eau distillée. On mélange le tout et on obtient une solution hydroalcoolique. C'est facile à faire, oui.
À 12h45, je reçois Marie-Paul Kieny, spécialiste en virologie à l'INSERM et surtout ancienne responsable à l'OMS pour voir si tous les pays jouent le jeu pour lutter contre ce coronavirus. Les aveux de Michel Fourniret dans l'affaire Estelle Mouzin, Europe 1 vous l'annonçait hier soir. Le tueur en série a dit qu'il avait tué la petite fille portée disparue depuis 17 ans. Le bras de fer entre la Grèce et la Turquie avec l'afflux de migrants à la frontière. Beaucoup de tensions aussi sur l'île de Lesbos. 20 000 personnes entassées dans un camp d'à peine 3 000 places.
On n'a pas d'électricité, pas de maison, pas de toilettes, on n'a rien ici. C'est très dur pour moi parce qu'on m'a tiré dessus, dans la jambe et dans l'épaule.
Le journal des sports avec Marseille qui fait du surplace en Ligue 1 après son match nul hier à Amiens. La météo avec Valérie Darmon qui nous dit que la pluie est encore au rendez-vous à l'ouest. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Xavier Yvon nous racontera la résurrection de Joe Biden et Salomé Legrand, les coulisses du procès Fillon qui s'achève la semaine prochaine.
Europe 1, écoutez le monde changer.
La France reste donc au stade 2, mais avec de nouvelles mesures plus contraignantes pour les 2 départements les plus touchés pour ralentir la propagation du coronavirus. Fermeture de toutes les écoles, lycées, collèges et crèches dans l'Oise et le Haut-Rhin. Ce sera à partir de lundi pour 2 semaines. Marion Gauthier, vous êtes à Mulhouse dans le Haut-Rhin pour Europe 1. Comment les habitants réagissent-ils à ces annonces ?
Eh bien Fabienne, ils craignent la psychose. Ce matin, c'était un petit marché, me disait un commerçant, tout de même soulagé d'avoir eu l'autorisation d'ouvrir. Pas de masque, des poignées de main. Ici, la vie suit son cours, mais la foule est inhabituellement clairsemée dans les allées. Edith les arpente tous les samedis. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, elle tire son cabas d'un pas pressé. Elle a poussé sa petite fille Manon à l'accompagner faire des provisions.
J'ai plus de 60 ans et ils disent qu'il ne faut pas sortir. Elle ne voulait pas m'emmener, j'ai dit « mais si je sors ». De toute façon, s'il faut l'avoir, on l'aura quand même. Hein.
Vous êtes d'accord avec ça?
Pas du tout, mais bref, c'est un débat qu'on a depuis la voiture.
Manon, bien plus préoccupée par les 2 semaines de cours qu'elle va manquer l'année de son bac que par le coronavirus. C'est aussi secondaire pour Wadi, père de 2 enfants dont les établissements scolaires ne rouvriront pas lundi matin.
On ne sait pas, on l'a su hier soir, donc on ne sait pas encore comment on va faire. On travaille tous les deux, ouais, des journées, ouais. Il faut trouver une solution, je sais pas encore. Je trouve que ça prend trop d'ampleur. Le match Strasbourg-PSG a été annulé. Les matchs ici dans la région ont été annulés. Moi j'avais un match demain parce que je suis arbitre de foot et ça a été annulé. Franchement, c'est vraiment une frustration pour un petit virus.
C'est impensable de bloquer toute une région, poursuit Wadi. Les mesures barrières, se laver les mains régulièrement, prendre des mouchoirs à usage unique, devraient suffire selon lui.
Marion Gauthier à Mulhouse pour Europe 1, vous le disiez à l'instant Marion, parmi les gestes de prévention que nous vous rappelons à longueur d'antenne, il y a celui de se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Et justement, pour faire face à une éventuelle pénurie, le gouvernement a annoncé hier soir que les pharmaciens pouvaient désormais fabriquer ce gel. À Paris, certaines officines ont déjà pris les devants, comme dans cette pharmacie du quartier de Saint-Lazare où s'est rendu Nicolas Feldman.
Bonjour madame, bonjour. Est-ce que vous avez du gel ou pas?
Oui.
Miracle.
Miracle pour Myriam, la 3e tentative de la matinée pour trouver le précieux liquide et la bonne.
Comme j'ai une maman qui va avoir 97 ans, c'est par précaution, c'est tout.
Et ce petit flacon vendu à un peu moins de 6 euros l'unité, cette pharmacie le produit à l'étage.
Là, on arrive au préparatoire.
Mode d'emploi avec Soukaina, l'une des employées.
Donc on fait notre mélange avec de l'alcool à 95, de l'oxygéné à 10 volumes, de la glycérine et de l'eau distillée. On mélange le tout et on obtient une solution hydroalcoolique. C'est facile à faire, oui.
Le mélange est ensuite placé en quarantaine pendant 72 heures pour permettre une stérilisation efficace. Il est ensuite conditionné en flacon. Une partie descend en rayon, l'autre est revendue à d'autres pharmacies très demandeuses ces derniers jours.
On peut leur livrer un flacon maximum, un litre, et eux, ils peuvent après les conditionner dans plusieurs flacons.
Et des appels comme ça, vous en recevez beaucoup ?
Bah ouais, là, ça fait la 9e pharmacie là, depuis ce matin.
Jusqu'ici, seule une poignée d'établissements parisiens sont en mesure de préparer ces solutions pour ensuite les redistribuer.
Alors nous en sommes à 613 cas en France avec 39 cas graves. C'était le décompte hier soir au niveau mondial. Ce sont désormais 100 000 personnes qui ont été contaminées. Premier cas annoncé ce matin sur l'île de Malte. On l'a entendu, beaucoup de réserves parfois avec ces nouvelles mesures d'interdiction. On en parlera avec Marie-Paule Kieny, ancienne responsable de l'OMS et directrice de recherche à l'INSERM. Elle est mon invitée dans un instant. On lui demandera justement quelles sont les meilleures mesures pour pouvoir stopper la propagation de ce coronavirus.
Midi 35, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Fabienne Lemoyle.
Et il est enfin passé aux aveux. Europe 1 vous l'annonçait dès hier soir. Le tueur en série Michel Fourniret a donc reconnu avoir tué la petite Estelle Mouzin. 17 ans que l'on s'interroge sur ce qui est arrivé à l'enfant qui rentrait de l'école ce 9 janvier 2003. Et nous sommes avec Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. Dans quelles circonstances Michel Fourniret a-t-il parlé, Guillaume ?
Eh bien écoutez, ça s'est passé dans un contexte très particulier. La juge Sabine Kéris, la 8e juge d'instruction de ce dossier, avait convoqué Michel Fourniret sur 3 journées consécutives, depuis mercredi jusqu'à hier. Et d'après nos informations, c'est jeudi, au 2e jour d'audition, que le tueur en série a formulé des aveux. Il a reconnu avoir tué Estelle Mouzin. On ne sait pas encore exactement quel degré de précision il a apporté dans ses déclarations, mais elles sont très importantes, 17 ans après la disparition de la fillette. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour en arriver là, la juge d'instruction travaille depuis des mois à instaurer un dialogue avec Michel Fourniret afin de l'amener à apporter des réponses, à livrer ses pires secrets. Elle avait déjà obtenu de lui des aveux détaillés pour les meurtres de Johanna Paris et Marie-Angèle Domès. Là, dans l'affaire Estelle Mouzin, elle a pris le temps d'interroger patiemment Fourniret, tueur en série pervers, manipulateur, joueur d'échecs qui jauge ses interlocuteurs et leurs réponses s'il les trouve à sa hauteur. Au détour de ses réponses dans sa précédente audition, fin novembre, il avait justement qualifié la juge Kéris de bonne joueuse, ajoutant un peu plus loin, je le cite, « Si les juges d'instruction français possèdent votre talent, eh bien, je plains les malotrus. »
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. Au moins un mort et 3 blessés après une explosion à Strasbourg tôt ce matin. Ça s'est passé dans un immeuble HLM du quartier de la Méno au sud de la ville. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'explosion. Le récit de ce qui s'est passé un peu avant 6h ce matin par le premier adjoint au maire Alain Fontanel.
Les pompiers sont arrivés en quelques minutes et le concierge de l'école en face était immédiatement présent, ce qui a permis d'ouvrir l'école et d'accueillir les familles évidemment choquées, pour certaines en pyjama, à peine habillées. Pour l'instant, l'enquête est en cours, mais il y a une présomption d'explosion probablement au gaz. Et une partie de l'appartement a été soufflée. La façade vitrée et le balcon ont complètement explosé. Une centaine de personnes de l'immeuble ont été évacuées et prises en charge par les services de secours et la sécurité civile dans un gymnase de la ville de Strasbourg.
Alain Fontanel, le premier adjoint au maire de Strasbourg, joint par Pauline Jacquot. Dans un instant, nous partons sur l'île de Lesbos en Grèce, une semaine que la Turquie a décidé d'ouvrir ses frontières pour laisser passer des migrants qui veulent gagner l'Europe, et vous l'entendrez, beaucoup de tensions.
Il est midi 40, la suite du journal sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoyle.
Et la situation est toujours très tendue à la frontière entre la Turquie et la Grèce depuis qu'Ankara a décidé d'ouvrir ses frontières pour laisser passer les migrants, pour faire pression sur l'Union européenne. Depuis, ils sont des milliers à se masser à cette frontière. Autre espoir, gagner l'Europe en passant par la mer, en gagnant l'île de Lesbos pour rejoindre le camp de Moria. Là s'entassent déjà 20 000 personnes pour 3 500 places dans des conditions qui empirent chaque jour. Pierre Herbulot.
Chaque fois qu'on regarde quelqu'un, on se dit bah, « est-ce que lui, c'est un mec qui va potentiellement vouloir m'agresser ?»
Une angoisse permanente. Depuis une semaine, des groupes d'extrême droite tendent des guet-apens aux humanitaires, parfois en se faisant passer pour des journalistes. Alors pour accepter de répondre à quelques questions, Jean demande d'abord une photo de ma carte de presse. Rendez-vous dans une voiture garée à l'écart de la ville. Là, il raconte les menaces quotidiennes.
« Toi, NGO, pack tes affaires et rentre chez toi. Sinon, viens chez toi, on va venir te chercher, quoi. »
Comprenez, ONG, un coup d'œil par-dessus son épaule, 3 personnes approchent.
Lui, il est pas content, tu vois.
Fin de l'interview.
Vas-y, arrête, enlève le micro.
Dans le camp de migrants de Moria, Chloé reprend à peine le travail après 3 jours de pause. La situation était trop tendue, mais la jeune femme installée à Lesbos depuis 1 an ne veut pas céder à la panique.
Pour pouvoir continuer à opérer, on doit juste faire très très attention à notre sécurité. Et notre but, c'est de pouvoir maintenir nos opérations le plus longtemps possible.
Pourtant, quelques minutes plus tard, tous les humanitaires évacuent le campement. Un groupe néo-nazi promet d'y faire une descente dans la journée.
Pendant les prochaines heures, on va faire très attention et rester un peu de côté.
Sur l'île de Lesbos, Pierre Arbulo, Europe 1.
Pierre Arbulo, que nous retrouverons dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 à partir de 13h, pour nous raconter la guerre de communication que se livrent aussi Athènes et Ankara au milieu ces migrants massés donc à la frontière. On l'attendait début avril, la sortie aux États-Unis des mémoires de Woody Allen. Et la décision est venue cette nuit de New York. Plus question pour son éditeur, le groupe Hachette, Pauline Jacquot, de publier le livre.
Oui, après 2 événements qui vont s'avérer déterminants. Rappelons-le, Woody Allen est accusé d'agression sexuelle par sa fille Dylan Farrow. Premier acte, Ronan Farrow, son frère, dénonce l'attitude d'Hachette. Manque d'éthique, manque de compassion et il menace. Si Hachette publie les mémoires de son père, le journaliste prix Pulitzer 2018 pour son livre sur les dessous de l'affaire Weinstein, ne travaillera plus avec le groupe. Deuxième acte, les employés d'Hachette manifestent il y a 2 jours à New York contre cette publication, écrit en gros sur leur pancarte le mot « solidaire ». Solidaire de Ronan Farrow, Dylan Farrow et des victimes. Troisième acte, hier donc, Hachette renonce finalement à publier les mémoires de Woody Allen aux États-Unis.
Et cette décision suscite de nombreuses réactions.
Oui, Stephen King s'inquiète sur les réseaux sociaux. La décision d'Hachette me met très mal à l'aise. Ce n'est pas lui, je me fiche de Monsieur Allen. Ce qui m'inquiète, c'est qui sera muselé au prochain coup. Inquiétude d'un côté, reconnaissance de l'autre. Aux salariés d'Hachette, notamment Dylan Farrow, écrit « Pour quelqu'un qui s'est longtemps senti seul avec son histoire, la journée d'hier rappelle qu'on peut faire une différence quand les gens s'unissent pour ce qui est juste. »
Pauline Jacquot.
Le journal des sports.
Avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Fabienne.
On commence avec du football. 28e journée de Ligue 1 et Marseille qui laisse échapper 2 points sans doute précieux.
L'OM menait 2-0 face à Amiens mais doit se contenter du match nul 2-2. Les Amiennois sont revenus en toute fin de partie. Marseille n'avance plus ou alors trop lentement même si sa 2e place n'est pas encore en danger. Le milieu de terrain marseillais Morgan Sanson le reconnaît. Le moral est peut-être touché.
C'est sûr que perdre 2 points comme ça, ça fait mal au moral, sachant qu'on a deux matchs difficiles qui nous attendent. Mais bon, il faut qu'on lève la tête et pas non plus tout dramatiser. C'est sûr qu'on perd 2 points, mais voilà, on a des matchs compliqués qui arrivent et il va falloir répondre présent.
Morgan Sanson au micro de Stéphane Frangy. Au classement, Marseille conserve sa 2e place avec 9 points d'avance sur Rennes, 3e.
Et la suite de cette 28e journée, ce sont 5 matchs au programme.
À suivre dès 20h dans le multiplex d'Europe 1, Reims-Brest, Metz-Nîmes, Dijon-Toulouse, Nice-Monaco et Angers-Nantes. La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg prévue à 17h30 cet après-midi a été reportée en raison de l'épidémie de coronavirus. Et puis en Ligue des Champions, le match retour des 8e de finale entre le PSG et Dortmund prévu mercredi prochain pourrait être repoussé d'une semaine. Cette possibilité est étudiée en haut lieu, même si aucune décision n'a été prise pour l'instant.
Et le coronavirus qui bouscule décidément le calendrier. Strasbourg-PSG reporté et en cyclisme, la classique Milan-San Remo également reportée à une date ultérieure.
La course devait partir le 11 mars mais l'Italie est particulièrement touchée par l'épidémie. Les organisateurs ont donc dû renoncer. La première grande classique Milan-San Remo n'aura pas lieu, au grand désarroi du manager de l'équipe Cofidis, Cédric Vasseur.
C'est un coup dur. C'est vraiment un coup dur. C'est le premier monument de l'année. On avait beaucoup axé le programme de début de saison sur ce rendez-vous. Et c'est vrai, pour l'avoir vécu en tant que coureur et déjà manager, il y a vraiment une ambiance particulière. Moi, j'adore l'ambiance qui règne sur Milan-San Remo. Ça lance vraiment la période des classiques. Maintenant, on connaît l'actualité, on connaît les raisons de cette annulation et je pense qu'il faut les respecter. L'important aujourd'hui, c'est tout simplement d'essayer d'enrayer cette épidémie et de voir avec les instances sportives s'il est possible de décaler la date. Parce que dans l'histoire de Milan-San Remo, je crois que seules 3 éditions ont été annulées, à chaque fois à cause d'une guerre mondiale. On comprend vraiment que ce qui est en train de se passer est grave.
Cédric Vasseur, manager de l'équipe Cofidis. Le Paris-Nice, autre grande course de ce début de saison, partira normalement demain, mais les organisateurs affirment avoir imposé des mesures drastiques pour limiter au maximum tout risque de contamination.
Dans le reste de l'actualité, le rugby et le tournoi des 6 nations.
En attendant Écosse-France demain, l'Angleterre reçoit le Pays de Galles cet après-midi à 17h45 et puis la Coupe du Monde de biathlon à Nové Mesto en République Tchèque. 2 relais au programme, féminin et masculin. Les femmes s'élanceront à 14h, les hommes à 17h.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à ArcadB. ArcadB vous présente la météo.
Et la pluie est encore au rendez-vous dans l'ouest, Valérie Darmon.
Effectivement, de fréquentes averses défilent encore au sud de la Garonne à l'heure qu'il est. Et cet après-midi, elles vont régresser tout de même entre les Landes, le Gers et les Pyrénées, tout en s'atténuant. Et en montagne, il va continuer de neiger. Mais cette fois, à partir de 1000 à 1300 mètres d'est en ouest de la chaîne pyrénéenne, attention au risque d'avalanche très élevé. Les régions méditerranéennes profitent toujours d'un temps très ensoleillé. En revanche, Tramontane et Mistral se renforcent, soufflant à 90 km/h. Sur le reste du pays, de l'est au Limousin, à l'Auvergne, à Rhône-Alpes, les éclaircies l'emportent pour toute la journée. Et à l'ouest, le ciel se couvre progressivement, depuis la façade atlantique jusqu'au nord Pas-de-Calais, la Touraine et le Poitou-Charentes. Les températures de l'après-midi, 8 à 11 degrés de l'Alsace au Massif central, 10 à 14 en général. Et jusqu'à 18 sur la Côte d'Azur.
Merci beaucoup Valérie Darmon. On l'a dit au début de ce journal, la France reste donc au stade 2 de l'épidémie, mais avec des mesures plus contraignantes dans deux départements, le Rhin et l'Oise, avec les écoles qui vont être fermées pendant deux semaines à partir de lundi. Quel est le poids de ces mesures pour stopper la propagation du coronavirus? On pose la question à mon invité Marie-Paul Kieny, ancienne responsable à l'Organisation mondiale de la santé et spécialiste en virologie.
Vous écoutez le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Fabienne Lemoyle. Il est maintenant 12h50, l'heure d'accueillir votre témoin de la semaine, Fabienne.
Et au cœur de l'actualité d'épidémie de coronavirus, la France reste donc au stade 2, mais avec l'annonce de nouvelles mesures plus contraignantes dans deux clusters, ces zones de foyer où le virus est particulièrement présent, le Haut-Rhin et l'Oise, où toutes les écoles et les crèches vont être fermées pendant deux semaines à partir de lundi. Bonjour Marie-Paul Kieny.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste en virologie, mais surtout, et ça va être particulièrement intéressant d'avoir votre expertise, ancienne sous-directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui est en première ligne dans la lutte contre ce coronavirus. Déjà, tout simplement, une première question, ces dernières mesures de fermeture d'écoles, de crèches, c'est la bonne stratégie? On sait que ça a déjà été adopté par d'autres pays, je pense à l'Italie, le Japon, pour limiter la propagation du virus, même si on le rappelle, en France, ça va se limiter pour l'instant à deux départements.
Alors cette mesure, effectivement, est prise pour retarder le plus possible l'apparition de nouveaux cas. Et ceci se justifie pleinement par le fait que on veut essayer de ne pas saturer le système de santé et donc éviter que tout d'un coup des centaines de personnes se présentent à l'hôpital et que un certain nombre d'entre eux aient besoin de soins intensifs. Donc tout ce qui peut ralentir la progression de l'infection, en fait, est bienvenu.
On parle de fermeture d'écoles, de crèches, on pourrait penser que les enfants sont particulièrement touchés, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui explique que ce soit cette mesure qui soit mise en avant par beaucoup de pays ?
Alors ce qu'on voit, c'est que les enfants, bien qu'effectivement ils fassent une Covid-19 plutôt bénin, mais les enfants sont très souvent un facteur important de propagation des maladies virales.
Vous le dites bien, Marie-Paul Kieny, je rappelle, directrice de recherche à l'INSERM et ancienne responsable à l'OMS, que l'idée, c'est de ralentir la propagation du virus. Pour autant, Emmanuel Macron l'a bien dit, le passage au stade 3, donc en situation épidémique sur l'ensemble du territoire, est inexorable. Le Premier ministre a dit hier soir, il ne faut pas dramatiser ce passage au stade 3. Qu'est-ce qui va se jouer à ce moment-là ?
Alors, ce qui va se passer au stade 3, c'est qu'à la place d'hospitaliser tous les patients, même ceux qui sont bénins, on leur conseillera d'aller mettre de la distance entre eux-mêmes et leurs concitoyens en restant à la maison. Alors, c'est un choix aussi, hein. Je veux dire, il y a d'autres pays qui continuent à essayer de freiner et d'aller en arrière, si je peux dire, pour l'infection, et certaines avec un certain succès. Donc, la Chine avait montré sa capacité à combattre l'infection dans les provinces en dehors de Hubei.
Justement, c'est l'autre question, c'est que ce qui peut surprendre dans cette crise qui est à l'échelle mondiale, c'est que chaque pays prend en quelque sorte des mesures dans son coin parce que ça relève de sa souveraineté et on peut être étonné que ce ne sont pas les mêmes mesures d'un pays à l'autre.
Alors les mesures doivent être adaptées à la condition locale, c'est bien clair. Et cette condition locale n'est pas la même dans tous les pays. Un pays où l'infection commence juste dans certains endroits peut essayer en fait effectivement aussi de mettre en quarantaine tout le monde et d'empêcher la progression pendant plus longtemps. Des pays pour lesquels on a déjà une transmission très importante dans la communauté vont essayer de mettre l'emphase en fait sur le traitement des patients.
On a constaté, Marie-Paul Kini, depuis quelques jours en France, une forte progression des cas. 613 personnes contaminées, nous disait hier soir le Premier ministre, 190 de plus que la veille. Ça témoigne de quoi ?
Ça témoigne du fait que le virus est éminemment transmissible et en fait on a un calcul pour le moment qui est approximatif. Il faut faire attention, ce virus est quand même neuf, cette épidémie est très neuve, donc il faut pas, les données ne sont pour le moment pas stables, mais on dit en gros que chaque personne infectée en infecte deux, sauf si elles sont en quarantaine stricte. Donc c'est pas étonnant du tout qu'on voit le nombre de cas augmenter de cette façon.
Une dernière question, Marie-Paul Kieny. Vous jugez comment aujourd'hui la situation de cette épidémie ?
Alors, je crois qu'il faut essayer de se garder de faire des prédictions, notamment à propos du chiffre qui donne le nombre de décès par personne infectée. Il faut s'adapter au fur et à mesure à ce qu'on apprend, parce qu'on apprend tous les jours. La réaction extrêmement vigoureuse en Chine a donné au monde entier des quelques semaines pour pouvoir s'adapter et mettre en fait son système de santé au diapason du risque. Donc il faut faire attention. Alors évidemment, il y a quelques pays pour lesquels personnellement j'ai particulièrement d'inquiétude. L'un de ceux-ci est l'Iran, parce que l'Iran, à cause des sanctions internationales, a beaucoup de mal à se doter des mesures médicales dont elle aurait besoin pour répondre. On n'est pas non plus rassuré par la situation en Italie.
Pourquoi ?
Bah parce que le nombre de cas explose aussi et on comprend pas trop et la mortalité semble être importante. Alors je crois qu'il faut être humble et pas se dire que en fait si ça va mieux chez nous c'est parce qu'en fait on a une meilleure façon de réagir. Il faut rester ouvert à ce qu'on apprend de neuf. Il faut surtout pousser aussi la recherche et le développement. Il y a beaucoup d'essais cliniques qui ont lieu actuellement en Chine. La France va être partenaire de ça aussi pour tester des molécules qui existent déjà, parce qu'effectivement la disponibilité d'un médicament, même imparfait, pourrait grandement aider à la réponse au coronavirus.
Et ce que l'on comprend à travers ce que vous nous dites, Marie-Paul Kieny, c'est qu'il faut aussi beaucoup de solidarité entre les pays et beaucoup d'échanges d'informations.
Il faut beaucoup de solidarité, il faut continuer à échanger des informations. Une des caractéristiques de cette épidémie, c'est que les scientifiques ont depuis le début, et en commençant par la Chine, de partager toutes leurs données avec la communauté internationale. Il faut continuer avec ça. Il faut surtout pas jeter le blâme les uns sur les autres en disant « Ah, c'est parce que c'est des Chinois » et maintenant on va dire « Ah, c'est parce que c'est des Italiens », etc. C'est des attitudes qui sont irresponsables et en fait qui freinent l'efficacité de la réponse.
Merci beaucoup Marie-Paul Kieny, je rappelle, directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste en virologie et surtout ancienne responsable à l'Organisation mondiale de la santé, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Merci à vous.
Merci à vous.
Et puis vous le savez, nous poursuivons à 13h cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. On reviendra largement sur la manière dont nos reporters couvrent cette épidémie de coronavirus. Xavier Yvon nous racontera aussi la résurrection de Joe Biden et Salomé Legrand, les coulisses du procès Fillon qui s'achève la semaine prochaine. Europe 1.